Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. En direct avec nous jusqu'à 13h, il vient de recevoir le prix de la personnalité politique de l'année. Il est le porte-étendard de l'écologie politique en France depuis les dernières élections européennes. Mais qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de l'écologie politique à l'échelle globale, nationale, locale? La question se pose chaque jour davantage sous la pression de l'accélération du réchauffement climatique, la pression de l'opinion, des élections municipales qui approchent. Emmanuel Macron était cette fin de semaine sur le massif du Mont-Blanc. Une visite symbolique pour, je cite le président de la République, « toucher du doigt les effets dévastateurs du réchauffement climatique ». Faut-il y voir un virage écologique du quinquennat ou une simple touche de peinture verte, autrement dit du greenwashing? L'eurodéputé Yannick Jadot va nous dire ce qu'il en pense et on lui demandera évidemment si la vie politique française a définitivement basculé dans une nouvelle ère après l'affaire Griveaux. Pour intervenir, le hashtag Cupol ou l'application mobile France Inter.
France Inter. Question politique. Ali Badou.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Et bienvenue. Bonjour Jeff Vilsenberg de France Télévisions.
C'est l'américanisation voilà, des médias. Ça.
Exactement, même si Jeff,
c'est déjà un, prénom,
un surnom américain,
n'est pas totalement français. Donc bonjour à tous et bonjour Ali Badou.
Et ravi de vous retrouver, Françoise Fressos du journal The World, Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter.
De France Inter.
Exactement, salut bonjour Karine. Et Karine a préparé votre portrait. Yannick Jadot, nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Commençons d'abord par ce qui occupe les esprits et qui fait la une de l'ensemble des médias, Yannick Jadot. Est-ce que pour vous, avec l'affaire Griveaux, il y aura un avant et un après dans la vie politique française?
Il faut l'espérer. Il faut l'espérer que ça conduise à un sursaut salutaire, parce qu'on voit notre démocratie attaquée, à travers une sorte de confusion permanente ou de mélange entre une forme de puritanisme, de voyeurisme, de délation. Tout ça, aujourd'hui, forme un combo détestable, avec un effet d'accélération incroyable du fait des réseaux sociaux. Et c'est vrai que aujourd'hui, résumer le débat politique au comportement des uns et des autres en matière de vie privée, c'est le pire qu'on peut imaginer.
Question qui est délicate à poser, parce qu'il n'est évidemment pas question de soupçonner quoi que ce soit ou de sous-entendre quoi que ce soit, mais est-ce que ça vous inquiète, vous, personnellement, Yannick Jadot? Est-ce que vous vous dites, voilà, je suis engagé en politique, mais je ne me suis pas engagé pour ça? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à voir la fin de votre vie privée signée, actée depuis l'affaire Griveaux?
On est obligé aujourd'hui de faire attention. Faut pas se raconter d'histoire, puisque avec les téléphones portables, avec les caméras, avec les enregistrements, dès que vous êtes dans la rue, dès que vous êtes au restaurant, dès que vous êtes n'importe où, au fond, dans l'espace public, quelqu'un peut porter atteinte à votre vie privée, vous enregistrer ou détourner une conversation.
Mais du coup, ça modifie vos comportements.
On est obligé, bien sûr, vous modifiez vos comportements.
Mais c'est tous interdire quasiment, non?
Mais heureusement, ça n'est pas tous interdire. Il faut rester vivant. Et puis surtout, il faut contrer à la fois ces atteintes à la vie privée potentielle et puis la brutalité. Parce qu'un des éléments qui aujourd'hui rebute beaucoup de personnes à entrer dans l'activité politique, c'est la violence évidemment verbale sur les réseaux sociaux et potentiellement physique.
Avant de donner la parole à Françoise Fressos, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez modifié dans vos comportements?
Écoutez, on fait attention aux discussions qu'on a, par exemple, dans un restaurant, évidemment.
Vous utilisez des messageries cryptées?
Ah ça, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde utilise des messageries cryptées à partir du moment où vous vous adressez et vous parlez politique. Donc ça, c'est la base aujourd'hui de la politique. Mais quelque part, il y a toujours eu potentiellement ce voyeurisme. Simplement, pendant, souvenez-vous, les années 80, Mitterrand avait une fille, personne n'en parlait, et le voyeurisme portait, l'atteinte à la vie privée, portait sur la famille de Monaco ou sur la famille royale britannique. Là, d'un seul coup, ça dit aussi peut-être de la responsabilité politique, c'est qu'on a l'impression que la politique n'est plus qu'un terrain un peu paragoutant du tout de personnalisation, de vie privée. Il va falloir remettre, et c'est ce que nous tentons de faire les écologistes, du fond, des solutions au problème des Français.
Est-ce que ça veut dire que ça traduit une déception par rapport aux hommes politiques? Au fond, on les a remis peut-être plus bas qu'ils ne le sont, parce que au fond, on ne croit plus en eux, on ne croit plus en leur action.
Quand on interroge les Français par rapport à la politique, le premier mot qui vient, c'est dégoût. Le deuxième, c'est défiance. Donc évidemment, les responsables politiques doivent s'interroger sur la façon dont ils font de la politique depuis des années et des années. Incontestablement, nous avons eu toutes ces dernières décennies, nous le savons particulièrement nous écologistes, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements qui n'ont pas été tenus. Combien aujourd'hui de présidents ou de gouvernements disent à quel point ils vont réconcilier, ils vont agir sur la crise climatique, ils vont agir sur la fracture territoriale, sociale, démocratique, et ils font à peu près l'inverse. Donc forcément, à partir du moment où vous ne semblez pas agir au profit, au bénéfice des Français qui vous ont élus, à partir du moment où vous semblez en permanence trahir vos promesses, se crée la défiance.
Non, et donc, il s'agit d'une violation de la vie privée.
Non, mais je réponds à la question de Mme Fressos qui me parle de l'affaissement de la politique. À nous, et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours, de montrer que la politique, c'est du courage, de montrer que la politique, c'est tenir ses promesses et d'être actif au service de nos concitoyens.
Jeff. Juste un mot pour revenir sur cette affaire. Vous dites, désormais, il faut être méfiant, il faut changer ses comportements. Est-ce que vous pensez que Benjamin Griveaux, lui, a été imprudent? Et est-ce que ça explique, par exemple, la fraîcheur de la réaction de son concurrent, son ex-concurrent à la mairie de Paris, David Belliard, qui a dit que le respect de la vie privée est un droit fondamental, mais qui n'a pas apporté un soutien appuyé? Est-ce que vous-même, vous avez appelé Benjamin Griveaux pour le soutien?
Non, je n'ai pas appelé Benjamin Griveaux, on ne se connaît pas particulièrement. Mais moi, à partir du moment où je veux faire une distinction très ferme entre la vie privée et la vie publique, à partir du moment où Benjamin Griveaux n'a fait aucun frais répréhensible du point de vue de la loi, je ne vais pas commencer à juger ses comportements dans la vie privée.
Donc vous
sinon, moi-même, je passe la frontière d'un débat de moralisation, de morale,
vous dites,
de décence.
Prudent. Vous dites qu'il faut être prudent désormais. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure,
Monsieur
Jadot.
Mais bien sûr. Mais enfin, souvenez-vous de la campagne de Griveaux. Il démarre avec un enregistrement volé où il insulte la moitié ses concurrents au sein d'En Marche.
Oui,
donc il commence par un son volé, il finit par une image volée. Ça montre qu'il faut être prudent.
Karine Bécart et Françoise Fressos.
Est-ce qu'on est en train d'assister à une américanisation de la vie politique? Et est-ce qu'on est juste en train de l'observer? Est-ce qu'on est en train de suivre ce mouvement? Et est-ce qu'on est dans l'incapacité de pouvoir lutter contre ça?
Écoutez, je ne sais pas si c'est une américanisation.
Vous avez dit tout à l'heure
de la vie politique. Oui, il y a une forme de moralisation permanente où, au fond, faute d'un projet partagé, faute de se donner un horizon commun, on a à la fois une forme d'individualisme très lourd, de personnalisation de la vie politique et de débat moral. En permanence, on nous explique, et vous savez les injonctions, comment on doit se comporter dans la vie publique comme dans la vie privée. Mmh. Et ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un débat de fond. La démocratie, c'est qu'est-ce qui fait cohésion nationale autour, vous le savez, des grands enjeux, des inégalités, du pacte républicain, de la laïcité et pour nous, évidemment, du combat pour l'environnement.
Mais qui réinjecte ça? Qui réimpose, en fait, ça? Parce qu'on voit bien qu'on est parti dans un espèce de tourbillon qui ne s'arrête plus.
Mais parce que je crois qu'il y a, il y a aussi, au fond, ces phénomènes ont toujours existé. Maintenant, ils prennent une ampleur, une accélération avec les réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant et qu'il y a d'un seul coup, en quasiment deux heures, il faut savoir si Benjamin Griveaux démissionne ou pas. Donc vous avez une sorte d'effet de blast des réseaux sociaux et moi, je ne défends pas la remise en cause de l'anonymat sur les réseaux sociaux parce que dans beaucoup de dictatures, c'est très important l'anonymat, mais même dans les démocraties, si vous êtes policier, vous devez pouvoir vous exprimer sur les réseaux sociaux sans qu'on vous ramène à votre identité de policier, mais il va falloir attaquer les plateformes.
Voilà.
Moi, quand je vois qu'on ne sait pas à peine comment attaquer ces diffusions de vidéos sur l'affaire Mila, quand j'entends qu'il va falloir, ça va être très compliqué de demander des autorisations sur les menaces de mort à des hébergeurs américains, des plateformes nord-américaines, je pense que là, on a un déficit profond de régulation des plateformes.
Françoise.
Vous appelez à la régulation, est-ce que vous appelez aussi à un débat citoyen, au fond, sur du bon usage des réseaux sociaux, ou en tout cas des dangers que ça peut faire courir sur la démocratie?
Nous, on a toujours été très favorable à ce que la question d'Internet en général soit enseignée très tôt à l'école. Il va falloir à la fois sur les enjeux de contrôle, du codage, comment on participe à une économie numérique, mais aussi qu'est-ce qui... vous voyez, regardez, on en a parlé évidemment sur l'affaire Milan. Il y a 20 ans, quand un gamin était harcelé, il était harcelé dans la cour de récréation, potentiellement sur le chemin qu'il ramenait à la maison. C'était dramatique, mais ça se limitait à ça. Aujourd'hui, un gamin, il peut être harcelé, cyber-harcelé, jusqu'à la minute où il va s'endormir à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a évidemment à repenser les comportements des uns et des autres. Et puis, cette difficulté, mais qu'ont l'air de bien gérer les jeunes, en vrai. Dramatise de relations entre la vie privée,
enfin, il leur arrive
la vie
aussi,
publique.
Très souvent, et à beaucoup de jeunes, justement, bien des sûr, mésaventures sont... comparables à celles de Benjamin Griveaux.
C'est pour ça que je disais, vous avez parfaitement raison. Et donc, la question de l'éducation, à mon avis, l'éducation nationale a une responsabilité majeure à redonner un usage sérieux et positif de ces réseaux sociaux.
Françoise, il y a une citation de Cédric Villani qui vous a frappé, à savoir que la démocratie française serait menacée.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez ?
À partir du moment où vous avez une personne qui peut transformer profondément une élection, c'est la démocratie qui est menacée. Alors, jusqu'à un moment donné, l'élection doit être jugée par des électrices et des électeurs sur la base d'un projet, et que là, pour Griveaux, sa campagne, elle s'est arrêtée parce que quelqu'un a porté atteinte à sa vie privée.
Cette affaire, vous disiez tout à l'heure, est un symptôme de la violence générale qui s'exerce notamment contre les hommes politiques. Est-ce que vous diriez que certains d'entre eux, certains hommes politiques, y ont contribué en utilisant par exemple la violence verbale, y compris ceux qui dénoncent aujourd'hui cette affaire Griveaux ?
Il y a une colère dans notre pays très forte. Quand vous regardez un dernier sondage de l'IFOP, disait que 45% des Français sont révoltés, ouais. 29% sont résignés. Vous vous rendez compte que ça fait quasiment plus de trois quarts de la population française qui n'a pas une relation positive à la vie démocratique et à la vie politique. Donc, à un moment donné, il va falloir apporter des solutions. Moi, la colère, il y en a qui la nient. Le gouvernement, et je pense Emmanuel Macron, trop souvent ont montré ces derniers mois qu'ils niaient cette colère. Au fond, les gens n'avaient pas de raison d'être en colère, c'est qu'ils ne comprenaient rien. Il mélange tout. Souvenez-vous l'expression d'Emmanuel Macron sur les retraites. Il dit en fait les Français mélangent tout. Bon. Et puis il y a ceux qui l'instrumentalisent. Vous avez raison. Et qui, au fond, pensent que la meilleure façon de répondre à cette colère, c'est de l'amplifier, de lui donner de la résonance dans l'espace politique. Moi, cette colère, je la fais mienne. Mais je la fais mienne pour apporter des réponses, des solutions pour apaiser la société. C'est ça la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est pas d'attiser les braises ou les flammes. C'est d'apporter des réponses aux solutions que rencontrent nos compatriotes.
En tout cas, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est cette affaire Griveaux, elle va changer quoi à cette campagne municipale à Paris ?
J'en sais rien.
Quel impact ?
Qu'est-ce
que ça va changer ?
J'en sais rien.
Mais vous êtes un observateur avisé de la vie politique,
un acteur. J'essaye d'être
un acteur. Et un observateur et un stratège. Donc vous avez forcément
Mais ça va profiter à qui, en fait ? C'est ça la
j'en
question.
J'en sais rien. Je vois En Marche, c'est-à-dire comme à chaque élection, si vous voulez, ils essayent de nous expliquer qu'ils sont en train de recomposer le champ politique. On entend les rumeurs. Macron a appelé Béliard à Paris, ce qui est totalement faux. Nous serions en relation pour essayer de voir, chacun fait son truc. Vous savez, comme dans les européennes, vous savez, on nous avait promis la campagne avec Juppé et Cohn-Bendit pour porter la campagne européenne. Vous vous souvenez, ils ont vendu ce scénario-là pendant des mois. À la fin, c'était Nathalie Loiseau.
Mais on ne peut pas imaginer, par exemple, que pour battre Anne Hidalgo, il puisse y avoir une coalition entre les Verts et le nouveau candidat de La République En Marche.
Personne ne veut battre Anne Hidalgo.
Pardon ?
Non. Mon candidat que je soutiens, le candidat des écologistes, David Béliard, il veut apporter des solutions aux Parisiennes et aux Parisiens.
Il ne veut sujet... pas battre Anne Hidalgo.
Mais ils sont pas concurrents. Des éléments pour être maire de Paris, c'est de battre ses concurrents en démocratie. Mais l'objectif de David Béliard premier, ça n'est pas de battre Anne Hidalgo. L'objectif que les écologistes portent dans cette campagne, c'est pas d'éviter le sortant. C'est dans ce moment d'urgence...
C'est une candidature de témoignage.
Non, mais au contraire, c'est une candidature d'action.
Si on vous écoute, mais c'est non, pas exactement c'est, ce
mais non, 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 c'est une candidature d'action. La question, c'est pas d'essayer de construire.
Si non, attendez, j'essaie
de répondre.
C'est pas de construire un vote contre. C'est de construire un vote pour. On a tous, et vous avez introduit l'émission sur les canicules, les inondations, les dégradations du vivant, la montée des inégalités, l'affaissement de la démocratie. On a une sacrée responsabilité à apporter des réponses positives, mais à faire que les électrices et les électeurs qui sont dans ce moment de défiance potentielle vis-à-vis de la politique se disent pas « j'ai me résigné une énième fois » à aller voter pour être contre quelqu'un, mais qui se disent « je vais être pour un projet, et ce projet-là, je veux qu'il gagne la ville ».
Pour gagner une élection et pour diriger une ville, Monsieur Jadot, il faut des alliances. Donc la question qui se pose aujourd'hui, avec le départ de Benjamin Griveaux, c'est votre candidat, David Béliard, est-il désormais le nouveau champion de ce camp ? Doit-il s'allier ? C'est des questions que les électeurs peuvent légitimement se poser.
Ah, mais ça, c'est... Et donc, vous avez parfaitement répondu. L'objectif des écologistes à ce pari, c'est de faire le meilleur score possible au premier tour, d'arriver en tête pour créer autour de cette coalition climat, autour de ce pacte qui permettra d'affronter les canicules, qui permettra de protéger les enfants dans les écoles contre la pollution de l'air, de les faire manger une alimentation bio, d'améliorer les déplacements, de faire que les enseignants, les infirmières ou les artisans puissent habiter à Paris, qui puissent créer cette coalition qui améliore la vie.
Mais avec le point mort, avec le point mort aujourd'hui, cette coalition climat, pour l'instant, il s'y passe rien.
Ils y travaillent, ils y réfléchissent,
avec Cédric Villani,
attention.
Ou pas?
Vous savez qu'il y a des contacts qui sont pris régulièrement pour essayer de construire un projet.
Mais il y a ceux qui veulent parler avec Cédric Villani et ceux qui ne veulent pas parler avec Cédric Villani.
Nous, les écologistes, sont prêts à parler avec tous ceux qui aujourd'hui ont envie d'améliorer le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Vous savez, il y a deux façons.
On ne va pas parler que de Paris,
là, c'est Yannick Jadot. Voilà. C'est pour ça que je voulais
chose,
mettre en là.
Et je voulais justement vous poser une dernière question là-dessus.
Il y a deux façons, d'évaluer ceux qui viennent vers l'écologie. Il y a la façon qui est de dire, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il a voté, je sais ce qu'il a été, et comme il n'était pas écolo, je le rejette. Et puis il y a ceux qui, et c'est ça que portent les écologistes aujourd'hui dans toutes les élections municipales, c'est-à-dire, enfin, vous avez compris l'urgence, vous avez compris qu'il y a des solutions, vous venez vers nous, bienvenue, nous allons gagner ensemble.
Alors justement, imaginons, pour gagner ensemble, imaginons qu'Anne Hidalgo l'emporte à Paris, alliée avec les Verts, est-ce qu'elle serait du coup la candidate idéale pour la présidentielle de 2022 ?
Oh là là, Ali Badou.
C'est ça la politique aussi.
C'est ça la politique.
Je me suis forcé à réfléchir comme vous, puisque c'est des raisonnements qu'on se pose.
Ah non, moi je réfléchis
chez
pas
les politiques.
Comme ça. Moi je réfléchis pas comme ça.
Jamais.
Les maires aujourd'hui sont les élus préférés des Français. Ils sont les élus préférés des Français parce que ils sont accessibles, parce qu'ils sont dans la réponse immédiate aux difficultés à l'échelle du lieu de vie. C'est essentiel, le lieu de vie. Ils sont ils sont en contact des Françaises et des Français. Et il n'y aurait pas pire que de dire, au fond, ces élections municipales où se joue le logement, les déplacements, l'urbanisme, l'alimentation, les services publics, le sport, la culture, en fait, tout ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est 2022. Eh ben, nous sommes pleinement, à 100%, engagés dans ces municipales. Nous voulons créer un maillage du territoire d'élus écologistes et de politiques écologiques parce que nous pensons aujourd'hui, de loin, que c'est la meilleure réponse à la crise démocratique, à la crise écologique et à la crise sociale que nous traversons.
Encore une question sur les municipales avant votre portrait, Yannick Jadot.
Mais l'exemple parisien est quand même important et intéressant parce qu'au fond, les Verts ont été dans la majorité sortante. Vous, vous dites, on veut construire quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance, et on ne voit pas trop avec quels alliés, et on ne voit pas non plus trop comment vous vous départagez par rapport à Anne Hidalgo. Et donc, est-ce que vous n'avez pas des ambitions démesurées par rapport à la réalité du terrain ?
Quand on y fait 20 degrés en Antarctique, comme c'était le cas hier ou avant-hier, que nous assistons à des tempêtes dont la récurrence et l'ampleur est évidemment extrêmement inquiétante.
Quand l'hiver est trop chaud ici
quand,
même.
Quand le mois de janvier a été le mois le plus chaud jamais enregistré à l'échelle de la planète, votre responsabilité, avec toute la modestie des transformations engagées, mais toute l'ambition de servir nos concitoyens et de sauver la nature, c'est de vouloir conquérir le pouvoir, mais pas pour l'occuper, pour l'exercer, pas pour l'accaparer comme c'est trop souvent le cas des villes, mais pour le rendre aux citoyens, parce qu'on a besoin que cette révolution écologique, elle soit citoyenne. Donc, nous sommes au fond les principaux acteurs du bilan écolo d'Anne Hidalgo, comme de celui de Johanna Roland, ou de Nathalie à Nantes, ou de Nathalie Appéré à Rennes, puisque c'est grâce au vote écolo qu'on a pu faire bouger ces villes-là dans des coalitions. Maintenant, il vous a pas échappé que cette ville a été trop minéralisée, qu'elle est beaucoup trop chaude l'été, qu'un certain nombre de mesures qui ont mis beaucoup trop de temps à être mises en œuvre. Nous considérons qu'aujourd'hui, nous avons les compétences, l'ambition, le tempérament pour exercer les responsabilités au service de nos concitoyens.
Comment regardez-vous le fait que dans beaucoup de villes, la plupart des villes, il y a une compétition pour savoir qui sera plus écolo que son voisin ou son concurrent? Il y a partout des candidats qu'on n'imaginait pas porter les couleurs de l'écologie, se revendiquer du vert, de l'écologie, planter des arbres, imaginer des mobilités douces, porter un discours qui, au fond, dont vous n'avez plus le monopole.
C'est aussi notre succès. C'est d'abord la réalité physique.
Voir Louis Alliot à Perpignan faire une campagne avec une affiche sur fond vert,
c'est
votre succès.
Oui, d'une certaine façon. Là, on est au bout du bout. Là, on
bon
est au
paradoxe.
On est au bout du bout de l'opportunisme et du cynisme. Mais, il y a une réalité. Il y a 10 ans, quand on parlait de la crise climatique, on parlait des générations futures. On parlait de la science et des générations futures. Là, tous les jours, on est percuté par cette crise écologique. Intimement, comme on le vit, que ce soit la contamination de nos organismes, comme les inondations, le froid, le chaud, bon, bref. C'est la mobilisation des jeunes. Ça a percuté. Moi, le nombre de personnes que je rencontre, chacun a une Greta Thunberg chez soi, en vrai. Tout le monde, des jeunes qui se disent « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» pour la planète dans laquelle je vais vivre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Et même chez vous, on vous pose la question.
Mais bien sûr. C'est toujours, et c'est bien parce qu'il y a aussi une forme de radicalité dans cette interpellation, qui est la radicalité de la jeunesse. Vous savez, c'était il y a 50 ans, donc c'était juste après 68, Chaban Delmas disait, si nous avons notre âge, plus rien n'est permis. Si nous avons 20 ans, tout est possible. Et d'ailleurs, moi, je le fais dans la campagne. Je lance un formidable appel à la jeunesse de notre pays. Vous vous souvenez le Brexit ? La Grande-Bretagne ferme à sa jeunesse les frontières du continent. Et les jeunes, qui étaient plus pro-européens que la moyenne, n'ont pas été votés.
Oui.
Ils se sont fait voler leur avenir. Et ben, je dis aux
jeunes... Ils se sont pas fait voler leur avenir, ils n'ont pas été votés, ils sont responsables.
D'accord. Mais ben, du coup, je dis aux jeunes, emparez-vous des élections municipales. C'est notre quotidien, c'est votre avenir, c'est notre destin. Emparez-vous pour que, justement, il y ait plus de solidarité et qu'on ait enfin un projet qui nous rassemble plutôt qu'il nous divise.
Juste, l'euro, vous pouvez...
Vous ne voulez pas faire le portrait de Yannick Jadot, Karine ?
Si, mais j'aimerais bien qu'il précise. Vous avez appuyé, là, à l'instant, sur... on a aujourd'hui les tempéraments. Ça veut dire quoi, avoir les tempéraments ? Ça veut dire que, jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas le personnel politique, il n'y avait pas des gens qui avaient envie, véritablement, de gagner, envie d'être maire, et maintenant, vous les avez à Europe Écologie Les Verts ?
Si. Vous savez, quand vous êtes...
Tempérament, ça veut dire quoi ?
Quand vous êtes écologiste, vous savez, pendant longtemps, on nous a moqués, on nous a méprisés, on se prend quand même des lobbies très puissants matin, midi et soir. Pour résister et pour continuer le combat et parfois gagner, il faut du tempérament. Et je pense que le tempérament est une qualité en politique. Mais on est dans ce moment-là. Et puis vous savez, pour revenir un peu à la première discussion que nous avons eue, on a dit l'affaissement de la démocratie, mais il y a aussi les contrepoisons qui sont en train de se créer. Regardez le mouvement des sardines
en Italie.
C'est ce mouvement qui a permis à l'extrême droite d'être battu, pour le coup, qui est un mouvement de civilité. Ils se battent contre la violence verbale et la violence physique en politique. Regardez, il y a un formidable think tank qui s'est créé par Brendan Cox. C'est le mari de Joe Cox qui a été assassiné pendant la campagne du Brexit. Il a fait un think tank pour savoir ce que nous avons en commun dans la société. pas ce qui nous divise, ce qui nous rassemble. Et ils ont fait l'étude en France, c'est une magnifique étude Destin en commun, qui dit que 83% des Français ont envie de se serrer les coudes pour affronter ensemble les défis que nous avons. Et vous savez quel est le sujet sur lequel ils pensent qu'on peut se réconcilier et nous réconcilier avec l'avenir et se réconcilier entre nous, c'est la question de l'environnement.
13%.
C'est de très loin, c'est
13% Yannick Jadot.
68%.
Pour les Verts aux dernières élections européennes.
Eh ben nous travaillons
13,5.
Déjà 13,5. ne nous enlevez pas ces quelques dizaines de milliers d'électeurs qui sont aussi notre fierté. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a autour de l'écologie aujourd'hui la perspective d'une projection positive dans l'avenir qui n'existera pas si on ne lutte pas contre le chaos climatique et l'anéantissement du vivant, c'est une évidence. Ce sera des guerres civiles, ce sera la fin des solidarités et de la démocratie. En revanche, si on le fait, on peut rebâtir notre démocratie, nos solidarités, notre modèle social sur la base de la lutte pour l'environnement.
12h30, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Votre portrait signé Karine Bécard.
Vous êtes tellement omniprésent ces derniers temps qu'on ne sait plus si vous faites de la politique depuis peu ou depuis longtemps. Adhérente aux Verts, vous l'êtes depuis 20 ans précisément, même si vous êtes resté probablement ce que vous avez toujours été, un militant. Vous avez commencé, Yannick Jadot, coopérant au Burkina Faso. Vous êtes devenu ensuite un altermondialiste. Vous intégrez une ONG, Solagral, spécialisée dans le suivi des négociations internationales, avant de rejoindre une autre ONG, bien plus médiatisée, Greenpeace France, dont vous avez dirigé pendant 7 ans les campagnes, des campagnes souvent réputées pour être assez musclées. Ce qui vous situe, à ce moment-là, très à gauche de l'échiquier politique. Mais à l'époque, vous discutez aussi avec des sarkozystes, en vous rendant notamment au Grenelle de l'environnement.
Nous espérons qu'à travers ce Grenelle, on pourra sortir peut-être des discours parfois idéologiques, parfois passionnels, et rentrer véritablement dans l'expertise et la raison.
À partir de là, vous sautez le pas. Fini le militantisme, vous entrez en politique. Député européen en 2009, grâce à Daniel Cohn-Bendit, vous rêvez tout de suite de devenir ministre, vous rongerez votre frein, mais qu'à cela ne tienne, Yannick Jadot, vous réussirez à vous imposer comme le candidat des Verts à la dernière présidentielle.
Oui, je retire ma candidature à l'élection présidentielle pour participer à une grande aventure.
Vous n'êtes resté candidat que 108 jours, exactement. Est-ce que vous le regrettez ? Non, parce que vous y aviez vraiment cru à l'Union de la gauche.
Ma responsabilité, c'est de créer les conditions pour que ça réussisse. La question des personnes, elle devra se régler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
2 ans après, Yannick Jadot, vous avez radicalement changé votre scénario. Plus question de laisser les écolos derrière, maintenant vous les devant, évidemment, mais du coup, vous vous situez où, politiquement parlant? Vous semblez vouloir transformer l'écologie en écologisme, c'est-à-dire en parti de gouvernement, seulement votre nouveau pragmatisme, que certains voient déjà comme du macronisme, fait grincer des dents, parce qu'une partie des Verts, que vous le vouliez ou non, resteront toujours d'éternels contestataires.
Réaction Yannick Jadot.
À quoi ? Mon portrait, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce portrait. Alors, je pense que je suis toujours un militant.
Ouais.
Vous savez, faire de la politique, et d'une certaine façon, quand j'étais à Greenpeace, je faisais aussi de la politique, dans un statut différent.
Enfin, vous êtes à SAGI.
Je sais
vous
pas.
Vous étiez directeur des opérations de Greenpeace France
j'étais
aujourd'hui.
Directeur des campagnes.
Vous ouais. êtes plutôt posé, prêt à des alliances,
vous
certains
savez,
diront des compromis ou des compromissions.
Oh là là, non.
Je parle
non,
comme...
Savez, le sens de la politique, c'est...
Comme certains de vos camarades d'Europe Écologie Les Verts.
C'est de faire des compromis, parce que sinon ça s'appelle pas la démocratie. Vous devez composer avec d'autres, c'est ça la base de la démocratie. Mais où je suis aujourd'hui Vous savez, je pense que notre pays est très abîmé. Quand vous avez près de 800 chefs de service à l'hôpital qui ont jeté leur blouse et leurs responsabilités administratives, quand vous avez une forme de burn-out dans l'éducation nationale, quand les Françaises et les Français, comme nous tous, on regarde abasourdi à un moment des policiers, des pompiers se battre dans des manifestations, on se dit que notre pays est abîmé. Et donc, nous avons une responsabilité à le réparer.
Vous avez des solutions ?
Ah bah oui, quand vous vous battez sur, alors on va y aller très pratiquement, en prenant le débat de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a dans ce pays 13 milliards d'euros d'argent public qui va en soutien à l'agriculture. Et je ne parle même pas de la dépollution des eaux, du traitement des maladies chroniques. 13 milliards d'euros d'argent public, dont 9 européens. Imaginez qu'on mette cet argent-là au service d'un revenu décent des paysans, au service de la sortie des pesticides, au service d'une alimentation de qualité, vous installez dans notre pays 200 000 paysans. Ce qui veut dire que vous avez plus de vie dans nos campagnes. Vous avez un environnement protégé quand 50% des oiseaux ont disparu sur les 40 dernières années, notamment du fait de l'agriculture.
Mais là, vous restez sur vos sujets de prédilection. J'ai envie de dire, il y a aussi... Vous êtes parlé de
l'agriculture,
de l'éducation nationale.
On va en parler, Karine, oui. Parce que malgré tout, on est une semaine avant le salon de l'agriculture, qu'il y a des négociations autour de la PAC très importantes.
Ce que je veux dire, c'est que typiquement, vous voyez, là, on est dans un moment où de très forte, et je pense que ça participe du rejet de la politique qui nous contamine tous. On a eu, dans ce quinquennat, et ça ne relève pas de ce simple quinquennat, on a eu d'abord la défiance de la part du président de la République et de sa majorité vis-à-vis des maires, vis-à-vis des syndicats. Après, sur la question des gilets jaunes, on a une forme d'arrogance technocratique vis-à-vis des Français. Maintenant, il y a une arrogance qui se rajoute, c'est celle vis-à-vis des parlementaires. Est-ce que vous pensez...
Restons sur le sujet de l'agriculture un instant.
Oui.
Parce qu'on parle beaucoup d'agribashing, qu'il y a une question réelle, Françoise, autour du modèle.
C'est exactement ça, parce que quand on vous écoute, il y a des solutions, on remet le budget européen et tout va bien. Mais là, concrètement, l'écologie, c'est aussi beaucoup d'agressions entre les écologistes qui veulent faire progresser leur cause, et puis les agriculteurs qui ont du mal à s'adapter. Et donc on voit, y compris dans les communes, vraiment des tensions très fortes.
Vous avez raison.
Donc comment vous appréhendez ces tensions? Est-ce que vous dites à certains, calmez-vous, il faut qu'on prenne notre temps? Ou comment est-ce que vous résolvez cette contradiction qui, au fond, anime tout le territoire français aujourd'hui?
Et on entendait ce matin dans l'Interception sur France Inter une enquête justement sur l'incompréhension des agriculteurs face à l'agribashing.
Vous savez, l'agribashing, ça a été inventé par les promoteurs des pesticides. Ah si. Vous reprenez dans le...
C'est la FNSEA
comment ça a été? Non, la FNSEA l'a repris.
Ça a été inventé,
au départ.
Ça veut dire que ça n'existe pas, Monsieur Jadot?
Ah non, si vous voulez, qu'il y ait de la critique vis-à-vis des paysans, qu'il y ait surtout, c'est le seul sujet dont on doit s'intéresser, des situations dramatiques pour les paysans. Nous sommes quand même dans un modèle agricole où vous avez un tiers, 40% des paysans, qui vivent avec moins de 350 euros par mois. Ils sont surendettés. Ils se suicident tous les jours et tous les jours.
Oui, c'est une question de survie.
Non, ils ne se suicident pas parce qu'il y a des écologistes qui veulent sortir des pesticides. Il faut regarder toutes les enquêtes qui sont faites sur le suicide paysan. Ils se suicident parce qu'on les a emmenés piégés dans un modèle dont ils sont très isolés.
Mais sortir des pesticides du jour au lendemain, ça nécessite souvent un grand changement dans leurs exploitations qui peut les amener à des situations
extrêmes. Il faut travailler, mais on n'a jamais eu autant de conversions sur l'agriculture biologique et les paysans en bio vivent mieux que les paysans conventionnels. Le sujet, mais y compris quand vous êtes responsable politique, quand le président de la République, sa majorité, comme le gouvernement précédent, soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, potentiellement avec le Mercosur, a voté sa majorité la semaine dernière au Parlement européen
un accord avec le Vietnam,
vous pensez qu'on défend nos paysans? On les met face à des modèles de production en élevage qui sont absolument abjects du point de vue du bien-être animal, du point de vue de ce qu'on leur fait avaler et du point de vue de l'environnement. Donc, il est là le cœur du sujet. Est-ce qu'on défend nos paysans et la perspective d'un revenu décent et en même temps la protection de l'environnement? C'est le programme des écologistes. Mais vous savez, on a énormément d'élus paysans. Peut-être qu'à un moment donné, et je ne le nie pas, les écologistes ont pu être vus comme étant contre les paysans. Mais non, c'est avec les paysans
une
qu'on
partie
va sortir.
Reste assez contre quand même.
Mais regardez,
quand
la France Nature Environnement, les locaux de France Nature Environnement sont dégradés par la FDSEA, c'est pas les écologistes qui sont à l'attaque. On a quand même, vous rendez compte quand même, on a toutes les études scientifiques qui disent à quel point nos santé sont menacées par les pesticides et d'abord la santé des agriculteurs, la biodiversité qui disparaît, le climat qui se réchauffe et nos pays, nos agriculteurs en voie de précarisation. Ceux qui défendent ce modèle-là sont quand même les plus pervers du système.
Mais alors justement, votre électorat, il est citadin, il n'est pas campagne.
Bon, faux, totalement faux. Ah bon.
Est-ce qu'on peut passer à Emmanuel Macron pour le coup ? On va revenir à la question de l'électorat, mais encore une des dossiers climatiques, puisque Emmanuel Macron était dans le massif du Mont-Blanc pour toucher du doigt les effets dévastateurs du changement climatique. Visite symbolique qui amorce quoi pour vous ? Le virage écologique du quinquennat, opération de greenwashing ?
Vous savez, moi, vous savez, je suis un pragmatique. Toute décision positive qu'il prendra, que ce soit par sincérité, par conviction ou par opportunisme, si ça fait avancer la cause écolo, je le prends. Mais quand je lisais notamment l'article du Monde sur cette visite, je voyais que ce qui était raconté, c'est que, au fond, le président de la République essaye de se tenir sur la ligne de crête entre Greta Thunberg et Donald Trump. Et là, je me dis, attendez, là... Là, on bascule où ? C'est-à-dire qu'on a...
Ça, c'est une formule. Il a prononcé à Chamonix un discours où il parlait de l'urgence climatique. Il en parlait comme du combat du siècle, Yannick Jadot.
Mais ça, très bien. Il est très bien qu'il le dise. Mais quand le même jour, encore une fois, au Parlement européen, sa majorité vote 29 milliards de subventions aux énergies fossiles. 29 milliards de subventions aux énergies fossiles. Qu'il soutienne un accord de libre-échange avec le Vietnam, qui est un acteur de la déforestation et de la pêche illégale.
Mais Fessenheim ferme le week-end prochain.
D'accord, mais... ça fait quand même des années que c'est prévu. Mais vous savez ce qui m'a gêné, en fait, le plus dans l'intervention du président de la République ? C'est quand il dit « il nous faut inventer » des modes de production, des modes de consommation, des modes de transport nouveaux. Mmh. Mais là, je me dis, mais à quoi servent ces équipes ? Les énergies renouvelables, ça existe. Les petites gares pour éviter d'avoir à prendre sa voiture, ça existe. L'agriculture biologique, ça existe. La protection de la biodiversité, toutes ces solutions-là existent. Oui. Il faut pas les inventer. Il faut juste les mettre en œuvre.
Oui,
les solutions, elles sont notamment discutées dans la Convention citoyenne pour le climat, où il y a 150 citoyens qui discutent depuis des mois. Ça doit se terminer fin avril. On parle d'un retour possible d'une taxe carbone. Est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce qu'on peut l'imaginer sans que ce soit aussi le retour de la colère qui avait amené le mouvement des Gilets jaunes ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour faire baisser, par exemple, les gaz à effet de serre ? Il faut arrêter la voiture ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ?
Une mesure très simple. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est 40% de nos consommations d'énergie. Donc c'est une facture et une dépendance et donc une complaisance vis-à-vis de la Russie et des monarchies du Golfe insupportable. 40% de notre consommation d'énergie. 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans notre pays, l'année dernière, nous avons grossi le cortège des personnes qui souffrent de précarité énergétique. On est à près de 7 millions, plus de 130 000 personnes qui souffrent de précarité énergétique. Je peux vous dire que c'est des problèmes de vie et de santé majeurs. Et qu'est-ce que fait ce gouvernement ? Il réduit par deux le budget de l'isolation des logements. Borloo crie partout, et il a raison, qu'on a détruit la rénovation urbaine. À l'inverse, ce que nous, écologistes, proposons, et nous le faisons avec la Fédération française du bâtiment, avec des entreprises comme Saint-Gobain, comme avec des petites entreprises et des artisans, c'est d'emprunter...
Parlez bien dans le micro.
D'emprunter, Jadot,
pour ceux qui n'ont pas les sous-titres, vous répondez là à l'appel de 300 signataires pour rendre plus écolo le secteur du bâtiment. Appel signé par Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, par exemple.
C'est une tribune d'aujourd'hui, ça fait très longtemps que nous défendons ça. Aujourd'hui, on emprunte de l'argent à taux négatif ou à 0% à 30 ans. Isoler, rénover nos logements, c'est rentable du point de vue de l'argent public. La Fédération française du bâtiment dit on peut engager en un an, deux ans, 100 000 artisans. Et ce sera 500 à 600 euros d'économie sur les factures d'énergie. Enfin, c'est un potentiel extraordinaire pour l'aménagement du territoire, pour la création d'emplois, pour le pouvoir d'achat, évidemment pour l'écologie, et ce gouvernement recule au lieu d'avancer. Voilà ce que feraient les écologistes s'ils étaient en place.
Il reste un quart d'heure, Françoise Fressoz, puis Karine Bécart.
L'écologie, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une avancée écologique, on voit aussi qu'il y a des tensions sur la faisabilité, on l'a vu sur le plastique, on le voit sur le glyphosate. Comment vous, qui prétendez incarner l'alternance, la grande alternance, vous abordez une possible exercice du pouvoir. Est-ce que vous dites, je vais fixer 4 ou 5 projets qui me semblent réalistes? Parce que, au fond, c'est un énorme bouleversement que vous préconisez. Et on voit qu'à chaque fois, il y a des fortes tensions. La taxe carbone, exemple majeur. Les écologistes ont voulu la faire. Ça a été soutenu par la gauche et la droite. Et on s'est aperçu qu'au fond, les milieux populaires étaient les principales victimes de la mesure. Donc, comment est-ce que vous arrivez à incarner un projet optimiste alors qu'on voit toutes les contradictions que ça souligne?
Yannick Jadot.
Personne ne dit que c'est facile, c'est pour ça que ça doit être profondément démocratique. C'est pour ça que l'association des citoyens à ces transformations, comme ce que j'appelle les travailleurs de la nature, les pêcheurs, les apiculteurs, les agriculteurs. Bon. La question de la taxe carbone, c'est emblématique. Depuis le début que ce sujet est évoqué dans le débat public, nous avons toujours dit, pour les populations les plus vulnérables, il doit y avoir une compensation à l'identique. Non seulement ils bénéficieront de plus de transports collectifs, mais ça ne doit pas leur coûter 1 euro. C'est y compris ce qu'avait fait la commission Rocard à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc là-dessus, c'est les gouvernements qui l'ont mal mis en œuvre et ont créé les conditions de son rejet. Sur le glyphosate, au Luxembourg, au 31 décembre de cette année, interdiction totale du glyphosate.
C'est
ils
un tout
ont
petit
travaillé.
Pays qui n'a pas le non, même mais poids de son secteur facile. Agricole dans non, son économie que
d'accord,
en France.
Mais ce que je veux dire, c'est que les viticulteurs, les arboriculteurs, tout cela où on nous dit « Ah, c'est pas possible de le faire », eh ben ils le font et ils accompagnent les agriculteurs. Et c'est possible à l'inverse. Dans notre pays, il va bientôt y avoir 3 ans que le président de la République a promis la sortie du glyphosate. On a augmenté de 25%. On n'a pas commencé à réduire, on continue à augmenter. Vous voyez, à un moment donné, il faut avoir le courage de mettre en œuvre des politiques avec les acteurs, avec les agriculteurs, pour arriver à ce que notre société aille mieux.
Karine Bécard.
Malgré tout, on se demande si vos ambitions à vous, électorales, pourraient pas être contrarié par Emmanuel Macron, parce que c'est le premier président qui s'occupe autant d'écologie et qui commence à avoir un bilan. Bah écoutez, il a quand même stoppé le projet de Notre-Dame-des-Landes, il a arrêté le projet Europa City, vous le souhaitiez également, oui. Il a fermé la Montagne d'Or, en tout cas pour l'instant.
En l'état.
Les Verts, qui ont appartenu à la précédente majorité présidentielle, quel bilan ils peuvent afficher finalement?
Vous savez, Jacques Chirac avait eu cette très belle formule « La maison brûle, nous regardons ailleurs ». Nicolas Sarkozy a fait le Grenelle de l'environnement, qui a été un grand moment sur l'écologie. François Hollande a accueilli à Paris
la COP21.
Il a fait une loi de transition énergétique. Et donc, Emmanuel Macron s'inscrit là-dedans. Le problème qu'il a, c'est un problème de cohérence. Vous avez raison, il a arrêté Notre-Dame-des-Landes. Vous avez raison. Mais là, juste à côté de Chamonix, ils viennent de donner l'autorisation de construire une nouvelle autoroute, alors que qu'est-ce que défendent les élus locaux? J'ai même parlé avec le maire de Chamonix. Ils défendent les subventions au train.
Oui, mais ça va venir, paraît-il.
Attendez, c'est autre chose. Il a arrêté Europa City. On ne sait toujours pas si on va
conserver... Écoutez la montagnarde, Françoise Fraisseau, Yannick Jadot.
On sait toujours
pas si on va
conserver les terres agricoles. Mais depuis 2017, l'artificialisation des sols, qui est un facteur majeur de perte de biodiversité et d'inondation, est reparti à la hausse. J'ai parlé de l'augmentation des pesticides. Ce gouvernement, il y a 2 semaines, nous a sorti une stratégie nationale sur le climat qui consiste en fait à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, et puis bientôt, après ce quinquennat, on commencera à les baisser. Vous voyez bien que on peut pas juste regarder les discours, à un moment donné, il faut regarder les actes, et ces actes-là, malheureusement, marquent plus souvent un recul qu'une avancée, et je suis le premier à le regretter.
On ne peut pas blâmer uniquement la politique nationale et les responsables et l'exécutif. Quand vous regardez cette scène ahurissante qui a eu lieu il y a quelques jours dans les Pyrénées, où une station de ski qui était en manque de neige s'est fait livrer par hélicoptère 50 tonnes de neige pour faire face à des conditions climatiques exceptionnelles, évidemment, mais surtout pour pouvoir accueillir les touristes et les amateurs de ski. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, pour le coup, c'est une décision qui est prise par des élus locaux qui sont proches de leur territoire. Et pourtant, c'est une scène folle.
C'est une scène totalement folle. Vous savez, moi, je comprends la panique des élus qui gèrent des stations de ski et qui voient année après année de moins en moins de neige. Et au fond, ils se disent « Mais comment je vais faire vivre
Donc le conseil départemental a eu raison.
Non, ce que je dis, c'est que je comprends l'inquiétude. La question, c'est comment ces stations de ski, et heureusement il y en a qui prennent les choses à bras-le-corps, sont en train de se transformer pour proposer d'autres
non, mais il faut
activités
l'interdire ou pas.
En lien avec... Ah ben ça, c'est débile.
Pourquoi
ça, faut arrêter. Parce que
Amix te dit que c'est pas hyper écologique, je le cite.
Ah, c'est pas hyper écolo, voilà.
Oui, bah, est-ce qu'il faut l'interdire?
Oui, je pense qu'il faut interdire ce type de mesure totalement dingue. On a des problèmes d'approvisionnement en eau de plus en plus aujourd'hui dans des vallées, y compris des vallées des Alpes, à cause des canons à neige. Il va falloir à un moment donné, un, qu'on lutte sérieusement contre le dérèglement climatique, mais aussi qu'on s'y adapte. Et heureusement, les écologistes dans les régions travaillent beaucoup à créer des alternatives.
Et la meilleure spécialiste des Alpes, justement, Françoise
Fresto. Non, mais c'est, ce qui est intéressant, c'est que chaque sujet qu'on traite, au fond, est un sujet de tension. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans le projet que vous définissez, il y a beaucoup d'optimisme, il y a aussi de l'apaisement.
Oui.
Qu'est-ce que les écologistes doivent changer dans leur pratique pour être un peu plus acceptés qu'ils l'ont été dans le passé, où il y a eu quand même pas mal d'actions parfois radicales, même revendiquées comme étant anti-gouvernementales. Est-ce que vous, vous appelez à une évolution du mouvement ?
Ce mouvement est en train d'évoluer, je crois, depuis plusieurs années, parce que pendant un moment, effectivement, on était plus dans l'alerte que, au fond, dans la concrétisation des engagements, même s'il y a toujours eu des élus. Aujourd'hui, notre responsabilité face à l'urgence, c'est de gouverner. Et à partir du moment où on veut gouverner, à la fois on s'intéresse à l'ensemble des politiques publiques et on s'intéresse aux conditions pour gouverner. Si vous voulez rassembler une majorité de Françaises et de Français autour de votre projet à un moment donné, eh ben tous ceux qui viennent vers vous aujourd'hui, vous devez les accueillir avec bienveillance. Ils ont parfois des opinions politiques, ils ont eu des opinions, ils sont pas d'accord avec tout. Mais aujourd'hui, ils viennent. Et régulièrement, je dis à mon parti politique, à nos militants, apprenons à aimer nos électrices et nos électeurs.
Et ils apprenons le font, ça, ils le font bien.
Mais oui, regardez, vous pensez que... Alors, ce sont que des sondages. Mais quand vous voyez à Besançon, à Strasbourg...
Pour ceux qui n'ont pas l'image, ça fait sourire Karine,
à Bordeaux,
Françoise et Jeff.
À Bordeaux, à Lyon, si nous sommes aujourd'hui bien placés potentiellement pour remporter ces villes, et c'est parce que aujourd'hui nous avons un discours crédible, des solutions fortes, ambitieuses, mais qui se construisent avec les citoyens, avec les entreprises, comme avec les salariés.
Mais vous êtes prêt à l'instant,
Jeff Wittenberg.
Vous parliez à l'instant de sondage. Comment vous expliquez en France le succès de ce qu'on appelle la collapsologie, c'est-à-dire la croyance en un effondrement inéluctable de la société, de la civilisation? 65% des Français, selon l'IFOP, y croient, et il y en a même un tiers de ces personnes qui pensent que ça va arriver dans les 20 prochaines années. Est-ce que vous, d'ailleurs, comme votre ami écologiste Yves Cochet, vous y croyez?
Non. Alors... Attendez,
non.
Qu'il y ait un scénario noir si on est à 6-7 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle.
Non, mais vous
ne
pouvez pas dire que la catastrophe a commencé et dire qu'il n'y aura pas d'effondrement. Il y a une contradiction dans les termes.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va trouver les solutions pour qu'il n'y ait pas d'effondrement. Moi, je pense que la société, elle est prête. On a, vous savez, je crois que dans l'histoire d'un peuple ou d'une nation ou d'une société, il y a peu de moments où on peut définir ce qu'on veut faire ensemble autrement qu'en rêve. Et je pense qu'on est à ce moment-là. Les entreprises, la société est prête à ce grand virage écologiste. Et au fond, oui, et puis c'est une réponse à la crise de l'avenir. Vous savez, regardez ce qui se passe parfois sur le coronavirus, ce qui se passe par rapport au terrorisme, ce qui se passe, c'est qu'au fond, il y a une crise de l'avenir. Il y a une trouille par rapport à ce qu'il y a devant nous-mêmes. On pourrait presque le percevoir dans le débat sur les retraites. Il y a cette idée que on sait plus rien de ce qui va advenir. Et que si cet avenir est chaotique, nos enfants vivront moins bien. C'est la conviction d'une majorité des Français. Et voilà. Bon. Donc, il nous faut se réapproprier cet avenir. Il nous faut redéfinir les termes de l'avenir. Et ce que je regrette, notamment chez le président de la République, c'est qu'il ne propose aucun récit aux Français.
Il l'avait pendant la campagne,
c'était son ambition. Il l'avait pendant la campagne, vous l'avez rappelé, c'était pas mon candidat, mais il y avait cette idée avec Macron qu'on allait réconcilier les territoires, qu'on allait réconcilier socialement ce pays, démocratiquement. Et en fait, il a perdu totalement le fil de son récit parce que finalement, il est resté dans le monde d'avant et qu'aujourd'hui, les seuls qui ont une lecture de l'avenir, il y en a deux. Il y a l'extrême droite, c'est au fond retour vers le futur. C'est-à-dire que la projection, ça va être un repli. Et puis, il y a les écologistes qui veulent à la fois qu'on vive mieux à l'échelle de nos territoires, à l'échelle de nos lieux de vie, c'est pour ça que les municipales sont un enjeu majeur, à l'échelle globale en tant que communauté humaine, c'est pour ça que l'Europe est un enjeu majeur, mais la France, si la France en 2022 devenait écologiste, après que l'Allemagne en 2021 devienne écologiste, vous imaginez le cœur de l'Europe qui devient écolo?
Et pourtant, justement, si on parle de l'Europe, et vous êtes eurodéputé Yannick Jadot, et vous connaissez très bien le sujet, la Commission européenne, la nouvelle Commission, a proposé ce projet de Green New Deal, de nouvelle donne verte comme projet pour son mandat, et c'est extrêmement difficile à appliquer quand on voit qu'il y a des pays qui n'en veulent pas. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque ont formulé des revendications qui pourraient tuer l'adoption même de ce pacte.
Vous avez raison, vous savez pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Commission européenne et les États membres
revoir les subventions
ne veulent pas mettre de l'investissement au pot commun. On est quand même dans une situation totalement dingue. On a une atonie économique en Europe. On a des millions de jeunes et de moins jeunes qui cherchent un emploi. On a cette crise climatique. On a, y compris potentiellement, un impact économique du coronavirus qui sera peut-être pas celui de Lehman Brothers, mais qui va impacter un peu plus l'économie européenne. Et on peut emprunter de l'argent à 30 ans à 0%. Ne pas aujourd'hui suivre la proposition, y compris que j'ai faite avec Daniel Cohen, Laurence Tubiana, Meda et Duval, sur l'idée qu'on met 1% du PIB européen, 160 milliards d'euros par an en investissement public. On met le double pour continuer à financer les banques sans impact sur le réel. Donc, si on fait ça, là, je peux vous dire que la Pologne et tous ces pays qui craignent la baisse des subventions européennes, des soutiens européens, je peux vous dire qu'ils seront des acteurs de la transition. Mettons de l'huile dans les rouages de l'économie européenne si, en plus, ça nous permet de protéger l'environnement, de créer des emplois, d'investir sur l'hôpital comme sur l'éducation, d'investir dans la culture de nos jeunes, eh bien, je peux vous dire que l'Europe redeviendra ce projet enthousiasmant qui n'aurait jamais dû cesser d'être.
2 minutes avant la fin de l'émission, Karine Becker.
Vous avez parlé des retraites tout à l'heure et vous avez parlé de récits. Alors, quel est votre récit sur les retraites? On vous entend peu, en fait, les Verts, les écolos, sur cette question-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec un système universel par point, par exemple?
Les écologistes ont toujours été favorables à un système universel, c'est-à-dire qu'on fasse converger. On appelle ça, d'ailleurs, une sorte de maison des retraites où, petit à petit, tous les systèmes convergeraient. C'est un enjeu de réconciliation de notre société. Mais il faut le faire sur le mieux-disant. Et il faut le faire, vous savez, la retraite, c'est quoi? Presque étymologiquement, c'est la sortie du travail. Vous ne pouvez pas penser un système des retraites déconnecté des conditions de travail. Si le gouvernement, et c'est ce que je continue à souhaiter, avait commencé à dire le sujet, ce n'est pas le point, l'équilibre en 2025, 2037, 2048, on ne sait plus où on en est. Si on avait commencé en disant, comment on traite de la question de la pénibilité? Il y a l'usure des corps, il y a les pathologies psychiques qui se développent, il y a le taux d'emploi de 60 à 64 ans, c'est 34%. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens aujourd'hui, enfin, une personne sur deux qui fait valoir ses droits à la retraite ne travaille déjà plus.
Concrètement, ça veut dire on enlève les régimes spéciaux ou
on rétablit, on là concrètement sur la pénibilité, on rétablit ce qui avait été adopté pour le coup sur le quinquennat Hollande, qui est le compte prévention de pénibilité, compte personnel prévention pénibilité. On remet l'exposition aux produits chimiques, on remet les vibrations mécaniques, on remet les postures
Jadot.
Et le port de charge. On commence par ça et on s'intéresse au travail des seniors dans les entreprises où ça va.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, se bat pour ça. Est-ce que si, au bout du compte, le projet tient compte de la pénibilité et institue un régime universel de retraite, est-ce que vous dites banco?
Mais si le gouvernement met sur la table les sujets qui concernent les Français,
on va devoir
mais
en
non, parce
peine.
Que Laurent Berger dit lui-même encore ce matin dans le journal qu'il ne voterait pas la loi aujourd'hui.
Pour le moment, oui.
Donc,
reviendrez pour qu'on reprenne cette conversation avec du temps.
Avec un immense
et
plaisir.
Et avec le calme.
Donc, rendez-vous la semaine prochaine, en fait.
Je ne crois pas, mais en tout cas, nous serons ravis de vous recevoir.
Merci infiniment.
Non, mais on sent quand même que vous êtes plus modéré que le reste de la gauche sur cette réforme, au fond.
Et vous aurez le dernier mot, François. Nous devons vraiment rendre l'antenne. Merci en tout cas, Yannick Jadot. Bon dimanche.
Sociale.
Merci d'avoir été notre invité.
Justice sociale.
Merci à Alexandre Gilardi, à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain.